Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2. Rencontre avec Michaël Poron autour de son livre « Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française » paru aux éditions Luxe, en partenariat avec l'association Survie Midi-Pyrénées, le 2 février 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir tout le monde. Et merci d'être là. Du coup, on va lancer cette rencontre autour du livre « Les ambassades de la France-Afrique » qui est paru chez Luxe. Il y a des places devant si vous voulez. Donc, bienvenue à Michaël Poron pour cette présentation et Guillaume qui est le directeur de la collection qui va faire la modération. Merci beaucoup.
Super. Alors, voilà comment je vous propose de procéder. Je vais vous présenter un petit peu la collection, l'auteur. Et ensuite, moi j'ai préparé des questions. Si vous voulez en poser, vous êtes prioritaire sur ce que moi j'ai préparé. D'accord. L'idée, ce n'est pas de faire une conférence dans laquelle on écoute Michaël qui nous parle pendant une heure. C'est que ce soit un échange en fonction des questions que vous posez, vous. Voilà. Alors, d'abord, la collection, c'est une collection qui date de 1994, qui est dirigée par l'association Survie. Je dis deux mots très rapidement sur l'association Survie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est une association qui a presque 40 ans et qui travaille et qui dénonce la politique africaine de la France. Voilà. Et plus généralement, les pratiques impérialistes. Donc la collection, elle est née en 94. Au début, c'était en gros des brochures épaisses qu'on s'est mis à éditer chez l'Harmattan. Voilà, le premier c'était sur le Rwanda, sur les génocides des Tutsis au Rwanda. Et puis ça a vraiment, c'est vraiment devenu des livres en 2002 quand ça a été repris par les éditions Agone. Donc toujours Survie qui a animé la collection, mais voilà, avec un bouquin qui a fait date, qui s'appelle L'envers de la dette. Voilà, qui montrait qu'on pouvait réfléchir à la dette sur des avec une approche économiste, mais qu'il y avait aussi vraiment des questions politiques et des questions d'enrichissement personnel et politico-mafieuse derrière ça. Donc on a fait une quinzaine de bouquins chez Agone, et puis l'an dernier, on a décidé d'arrêter pour des questions de désaccord sur le fonctionnement. Et on a commencé chez Luxe, donc ce bouquin-là, c'est le premier qu'on a fait aux éditions Luxe. Voilà, donc on en est à 30 livres dans la collection. Ce sont surtout des auteurs, historiquement, ce sont surtout des auteurs de l'association. Mais plus ça va, plus on a essayé de la diversifier et de demander ou d'accueillir des auteurs qui viennent de milieux différents. Ce qui fait que c'est les derniers bouquins qu'on a fait, on a les deux derniers, c'est des journalistes. Il y a Michaël et puis celui d'avant, c'est Philippe Baquet, qui a travaillé sur le pillage des œuvres d'art africaines. Le suivant, ce sera Raphaël Granvaux sur la guerre contre le terrorisme en Afrique. Donc ça, c'est un auteur qui travaille depuis longtemps en tant que militant de Survie. Le suivant sera probablement une académique Clara Egger sur le rôle des grosses organisations humanitaires dans les dispositifs impérialistes français, anglais, américains. Donc là, on est sur une approche un peu plus académique. Enfin, voilà, on essaie de diversifier, de faire en sorte que ce soit à la fois un lieu de travail, d'expression pour des gens qui sont militants, mais aussi d'ouvrir au milieu des journalistes et des universitaires. Voilà. Je vais présenter les prochains. Alors, Michael Poron est un journaliste spécialisé dans la politique africaine depuis, ça fait 15 ans à peu près, qui a passé 10 ans dans une publication qui s'appelle Jeune Afrique. Alors, dans le grand public, on ne connaît pas forcément très bien Jeune Afrique. Dans les milieux des gens qui lisent un peu sur ces sujets, alors on critique énormément Jeune Afrique. On critique parce qu'on l'utilise quand même pas mal, finalement. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, tu as 777 articles référencés sur Jeune Afrique. Il en est parti. Ouais, c'est ça. Donc, il en est parti en 2019, et depuis les journalistes indépendants. Il a publié pas mal, notamment chez Mediapart et dans Libération. Et puis, dans le média en ligne Afrique 21. Alors, celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir, allez voir Afrique 21, c'est uniquement en ligne. Et vous verrez qu'il y a un petit bandeau en haut où il y a une souscription. Bah, c'est un média qui a, qui a demi-temps salarié et dont l'équilibre économique est un peu précaire et qui mérite vraiment, vous verrez, c'est des articles de grande qualité, ça mérite vraiment d'être soutenu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et éventuellement à participer financièrement. J'en viens au livre. Donc, les premiers échanges qu'on a eus sur le livre, c'est à l'automne 2019. Donc, ça vous donne une idée un peu des temporalités. Et donc, voilà, je rencontre ce journaliste qui me dit « Je voudrais bien faire un bouquin accessible sur les ambassades françaises, sur ce que j'ai vu pendant toutes les années où j'ai travaillé. » Et donc, on a fait ce livre, donc, qui est un livre relativement court, lisible, qui est beaucoup basé sur des entretiens. On pourra revenir un peu sur la façon dont tu as récolté le matériel, des récits de terrain et puis un travail d'archives. Donc, c'est une des caractéristiques de ce livre par rapport peut-être à d'autres qu'on a fait dans la collection. C'est qu'en termes de référence, on est beaucoup sur un matériel vivant, des échanges qu'ont eu lieu sur place, des observations sur le terrain. Donc ça fait un livre qui est globalement assez facile à lire et donc accessible à des gens qui ne sont pas forcément soit des lecteurs chevronnés, soit des gens qui connaissent déjà le sujet. Voilà, donc je propose qu'on commence. Est-ce que je pose la première question ou est-ce que quelqu'un veut y aller ? Alors, première question. Donc, la première question que je voulais te poser, déjà, c'est de quoi on parle ? C'est quoi être un ambassadeur ? Qu'est-ce qu'est censé faire un personnel diplomatique ?
Alors, merci à tous d'être là déjà. Merci pour la présentation. Merci pour Afrique 21. Alors, un ambassadeur, c'est la définition, elle peut être relativement simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un représentant de l'État français, enfin, de l'État pour lequel il est envoyé dans un pays étranger. Maintenant, en Afrique, c'est une position qui est assez particulière. Dans l'Afrique, en tout cas, des anciennes colonies françaises. Puisque avant 1960, il n'y avait pas d'ambassadeur en fait, de France. Il y en avait déjà dans les autres pays du monde qui n'étaient pas des colonies. Mais en Afrique, avant 1960, donc avant les indépendances africaines, le statut d'ambassadeur en fait, de France n'existait pas. Donc c'est la première particularité sur la zone géographique qui nous intéresse, qui est donc les anciennes colonies françaises en Afrique. C'est qu'à partir du moment où il y a eu les indépendances, alors ils ont commencé à y réfléchir un petit peu avant, moi j'ai retrouvé des courriers en 1958, on parlait encore... On ne parlait pas d'ambassadeurs, en fait. Donc, c'était plutôt des administrateurs coloniaux ou ce genre de choses. Après, il y a le terme évolue un peu. On parle de représentants, hauts représentants. Et il y a vraiment qu'à partir de 1960-61 où vraiment les courriers sont adressés à l'ambassadeur de France en Afrique. Donc, voilà, c'est le représentant de la France et donc des Français. Donc, en fait, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tous leurs comportements représentent a priori la France et les Français. Ils ont leur... Il y a une hiérarchie, évidemment. Ils reçoivent les ordres de, entre guillemets, de, bah, pas entre guillemets, enfin en tout cas du pouvoir français. Donc ils doivent appliquer en fait la politique française telle qu'elle est décidée à Paris. Et donc pour moi, ce sont des exécutants, si vous voulez, de la politique française à Paris.
Et alors, en pratique, ça se passe que dans des salons, ça veut dire...
Alors, en pratique, il y a deux choses. Il y a d'abord, il y a la relation avec la communauté française, ce qu'on appelle, en général, sur place. Donc, c'est quand même... Ils sont là aussi pour tout ce qui est paperasserie, mais également protection des gens, des Français qui sont sur place. Et puis après, c'est aussi beaucoup de politique. Donc, c'est ça se passe dans les salons, effectivement, dans les palais présidentiels, dans les ambassades de France, les réceptions avec les, enfin les réceptions, pas que des réceptions, mais aussi des réunions très très discrètes avec les grands leaders politiques du pays, ce genre de choses.
Ok, mais alors c'est une des choses sur lesquelles tu ouvres le bouquin. C'est que c'est théoriquement, il est côté français et il va porter la parole officielle du ministère des Affaires étrangères. Et il y a surtout un gros exemple au début, mais il y a régulièrement dans le bouquin, on a l'impression que c'est un homme politique parmi d'autres, vous pouvez voir un peu au-dessus des autres dans la hiérarchie locale, dans la politique locale.
C'est la particularité, effectivement, dans les anciennes colonies françaises, c'est que l'ambassadeur, dans ses anciennes colonies, a un pouvoir beaucoup plus fort que dans d'autres pays. Il se permet, en tout cas, des libertés et des prises de décision, parfois. Moi, je dis souvent, c'est comme un proconsul. Donc, c'est-à-dire qu'il a un poids, il est reçu, il a quasiment porte ouverte dans les palais présidentiels. Donc, c'est quasiment un ministre, en fait. Encore aujourd'hui, la plupart du temps. Donc, il a un pouvoir certain dans ces pays qu'il n'a pas forcément dans les pays où la France n'a jamais été colon. Il se permet des choses politiquement, des déclarations. Je raconte effectivement au départ cette chose assez incroyable. Au Cameroun, où l'ambassadeur de France est reçu quasiment tous les mois par le président, Paul Biya. Et quand il sort de cet entretien, il s'arrête sur le parvis du palais présidentiel et il donne une conférence de presse. Et donc, je retourne la situation et je dis, est-ce qu'on imaginerait l'ambassadeur du Cameroun en France avoir un entretien avec Emmanuel Macron, s'arrêter sur le parvis de l'Élysée et faire une conférence de presse, filmée par les télés publiques, télés nationales. La réponse est évidemment non. Donc rien que cet exemple donne un peu une image du poids, en fait, de ces ambassadeurs de France dans ces pays-là. Pas que le Cameroun, le Gabon...
Tu parles aussi de l'épisode de l'exfiltration de Ouattara en Côte d'Ivoire.
Oui, alors là, on est dans un contexte encore différent et dans un pays pareil qui est un grand pays, on va dire, de la colonisation française, qui est la Côte d'Ivoire, où l'ambassadeur, à un moment donné, se permet une liberté, finalement, qu'on peut appeler d'ingérence, qui est dans un conflit, où quand certains hommes politiques que soutient la France sont, selon le récit, encore une fois, parce qu'on n'est pas sûr de cette chose, mais selon eux, est en danger, où on va aller quelque part sauver quelqu'un qui représente plutôt bien les intérêts de la France, en l'occurrence le président actuel Alassane Ouattara, et donc qui a été exfiltré, d'abord récupéré, soi-disant en danger de mort, puis logé dans la chancellerie française pendant 3 mois, donc aux frais de la France, et ensuite exfiltré par hélicoptère en France. Et donc c'est quelque chose d'assez... Et donc c'est pas arrivé qu'une fois, hein, puisque c'est arrivé avec deux présidents, en 99 au début des années 2000. Donc ce sont des choses où, effectivement, l'ambassadeur a décidé en tout cas les diplomates, l'ambassadeur plus un de ses conseillers, ont décidé finalement, certainement avec aussi l'aval de Paris, d'aller, entre guillemets, sauver le soldat Ouattara et de l'exfiltrer.
Comment ? Non, c'est une référence à un film.
Non, c'est une référence.
mais donc, on a exfiltré, enfin, les Français, par décision de l'ambassadeur, ont exfiltré Ouattara, qu'ils ont estimé qu'il était en danger suite à des manifestations importantes et des mouvements un peu violents.
Anti-français, hein.
Ouattara, qui a été réinstallé par la main française suite à des combats sérieux
en Côte
d'Ivoire en 2011.
Ah non, Blaise voilà. Compaoré, c'est encore après. Je peux en parler aussi. Hein. Oui, voilà. Donc là, moi juste avant. Oui. Non. Moi, là, je parle vraiment du président ivoirien, enfin actuel. Et effectivement, en 2014. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, malgré les discours, on voit que finalement, ça change pas vraiment. En 2014, effectivement, il y a une révolution, on peut appeler ça comme ça, populaire, qui fait tomber donc le dictateur Blaise Compaoré. Et donc Blaise Compaoré a été exfiltré aussi par la France, par les forces spéciales françaises. Et donc ça, cet exemple est intéressant parce que derrière ça, c'est que la France a privé aussi le Burkina Faso d'un procès, puisque Blaise Compaoré est aussi quelqu'un qui était soupçonné d'avoir participé, ou en tout cas commandité, l'assassinat de Thomas Sankara, qui est un grand leader panafricaniste burkinabé, dans les années 80, 86 ou 87, ouais, 87, merci. Et donc, en l'exfiltrant vers un pays ami de la France, dirigé par Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, qui lui a aussitôt donné la nationalité ivoirienne, a privé le Burkina Faso, finalement, d'un procès. Donc, Blaise Compaoré n'a jamais été jugé pour ces faits, malgré le procès qui a eu lieu l'an dernier. Voilà.
Alors, revenons aux ambassades. Si quelqu'un veut intervenir, hein, n'hésitez pas, hein, vous levez la main, je vous jette le micro.
Oui. Est-ce que vous sentez une évolution ? Puisque là, l'avant-dernier président burkinabé, il a toujours été exfiltré. Là, les Français n'ont pas mis d'hélicoptère à sa disposition. Ils ont fait appel, je crois. C'est pas les Israéliens qui ont exfiltré ?
Pas du tout, non. C'est la France et les forces spéciales. Mais le rapport avec ce qu'on disait par rapport aux ambassadeurs, c'est que l'ambassadeur sur place joue un rôle central. C'est-à-dire que souvent, c'est lui qui, politiquement, décide, ou en tout cas, a les instructions directes de Paris et ensuite va passer les instructions. Donc, pour la Côte d'Ivoire, c'était donc directement l'ambassadeur qui est venu chercher Alassane Ouattara, qui l'a amené à la résidence, qui l'a logé et ensuite qui l'a exfiltré par hélicoptère. Et Blaise Compaoré, il y a aussi une intervention de l'ambassadeur, en tout cas dans les informations transmises. Et ensuite, c'est les forces spéciales françaises qui l'exfiltrent.
Ok, alors attends, ça veut dire que l'ambassadeur, il a un... il peut téléphoner aux militaires et dire vous allez faire ça. Il a autorité sur les militaires français.
En général, il y a des canaux d'information relativement distincts qui sont les canaux militaires et les canaux politiques avec l'ambassade. Mais tout ça communique bien sûr.
Ouais. Alors ça c'était une perche pour parler du fait justement de est-ce que c'est un ensemble cohérent ? Est-ce qu'à l'intérieur de l'ambassade il y a des gens qui vont un peu tous dans la même direction en fonction des instructions qu'ils reçoivent, ou s'il y en a, quels sont les rapports de pouvoir ? Est-ce que tu as des exemples là-dessus ?
Alors, je vais y venir tranquillement, mais dans une ambassade, effectivement, vous avez l'ambassadeur, donc, qui est plutôt politique, et puis vous avez un attaché de défense, qui lui est là justement pour coordonner tout ce qui est intervention militaire, ou en tout cas les informations militaires. Et puis vous avez également... au sein de l'ambassade, des attachés de renseignement, ce genre de choses. Il se trouve qu'effectivement, vu qu'il y a des canaux différents de communication, il y a le canal politique avec l'ambassadeur, il y a le canal militaire avec l'attaché défense, et puis vous avez le canal aussi renseignement. Donc en fait, tout ça, normalement, c'est censé travailler en cohésion, et normalement, il est censé y avoir des notes, on va dire, qui font le lien entre tous ces services. Parfois, pour peu qu'il y ait des mésententes au sein de l'ambassade, il peut y avoir des petites guerres de pouvoir. Et ça a été assez flagrant au Sahel, avec l'intervention française au Mali, qui est une intervention, là je vous renvoie à d'autres lectures, parce que ce n'est pas le sujet, mais qui est une intervention militaire et qui a été pensée par des militaires. Et une fois que les militaires... Et donc, l'intervention arrive alors que l'ambassadeur sur place, lui, n'était pas totalement convaincu de la manière de faire. Il estimait qu'il y avait un danger, mais il n'était pas complètement convaincu qu'il y avait que c'était la bonne manière d'intervenir au sol et d'intervenir à ce moment-là, en fait. Et notamment par rapport à un récit qui est de dire que les djihadistes du Nord Mali allaient descendre sur Bamako. Lui pensait qu'en fait, ils n'allaient pas spécialement descendre sur Bamako. En tout cas, c'est ce que François Hollande a dit pour justifier l'intervention militaire française. Et à partir du moment, à l'époque, donc c'était Jean-Yves Le Drian, qui était donc à la tête du ministère de la Défense, et c'était Laurent Fabius qui était aux affaires étrangères. Et il se trouve que Laurent Fabius, l'Afrique, ça ne l'intéresse pas vraiment. Donc Jean-Yves Le Drian a vite pris le pas, en fait, sur les affaires africaines. Et donc, quand les militaires sont arrivés donc en force, hein, c'était plusieurs milliers d'hommes, là, d'un coup, le pouvoir militaire, finalement, a pris le pas sur la diplomatie politique. Et c'est ce que je raconte, c'est que cet ambassadeur que je peux citer, qui s'appelle Christian Rouillet, que j'ai rencontré longuement, raconte qu'en fait, à partir du moment où lui n'était plus en accord avec la politique militaire sur place, eh bien, il a été dégagé. Voilà. Alors, ils ont mis derrière quelqu'un qui avait très bien manœuvré, qui s'appelle Gilles Huberson, qui a d'ailleurs, qui était un ancien gendarme, donc très proche des militaires, etc. Donc, quelqu'un qui était plus en accord avec la politique militaire de la France. Donc là, on voit un basculement des pouvoirs, finalement, dans la diplomatie française, où, d'un coup, les Français se sont installés au Mali avec un prisme militaire et plus du tout politique. Ce qui fait que tout ce qui est les questions de droit, d'État au Mali ont été un peu mis de côté au profit d'une vision militaire, en fait, de la résolution du problème. Ce qui a causé beaucoup de problèmes jusqu'à aujourd'hui.
Alors, oui.
Justement, sur les anciens emplois de ces ambassadeurs, est-ce qu'il y a un schéma qui se répète sur, je sais pas, d'anciens militaires ou d'anciennes personnalités de gros groupes industriels, des choses comme ça?
Alors, on a vu... Alors, il y a eu des périodes, mais pour faire rapide, en général, les ambassadeurs, c'est plutôt des hauts fonctionnaires. D'ailleurs, certains m'ont dit, quand j'enquêtais, me disaient « mais nous ne sommes que des petits fonctionnaires » pour minimiser un petit peu leur rôle, en fait, et leur pouvoir, quelque part. C'est faux, c'est des hauts fonctionnaires, donc c'est des gens qui ont un certain pouvoir. Et on a vu aussi, et on voit dans certains pays, jusqu'à très récemment, d'ailleurs, au Cameroun, la nomination parfois de militaires qui ont des profils plutôt militaires. Mais ça reste quand même relativement anecdotique dans le cercle des ambassadeurs. Donc au Cameroun, récemment, il y en a un qui a été nommé, j'ai pas le nom bien sûr, mais qui a plutôt un profil militaire. Et donc là, on voit qu'il y a une stratégie. Et puis, au Mali, c'était clairement une stratégie. C'est-à-dire que nommer Gilles Huberson, qui était gendarme et qui était proche des militaires, qui était d'ailleurs en mission au Sahel avant même d'être ambassadeur pour faire la liaison entre Paris et les militaires, et donc qui avait déjà dans sa poche, enfin en tout cas qui était déjà très bien vu des militaires, c'était une vraie stratégie. Mais globalement, c'est plutôt des hauts fonctionnaires qui ont un parcours relativement identique. C'est des gens d'une certaine classe et qui ont fait ENA, ce genre de choses. Voilà.
Alors, tu parles dans le livre de la domination symbolique et matérielle. Autrement dit, dans quelle mesure ça se voit quand on passe devant une ambassade française à Abidjan ou à Yaoundé? Qu'est-ce qu'on voit?
Alors, effectivement, c'est assez typique. Au sortir, un petit peu avant la décolonisation, un petit peu avant 1960, quand on va dans les archives à Nantes, on voit toutes ces discussions autour de « mais où est-ce qu'on va installer l'ambassade de France ?» Parce qu'on rend un certain nombre de biens au pays souverain, dans des conditions, je n'entrerai pas dans les détails, mais En général, on pèse bien le pour du contre. Quels sont les bâtiments à valeur, qui ont de la valeur, ceux qui n'ont pas de valeur. Enfin voilà, ceux qui coûtent cher, il faudrait les rénover. Enfin bon, bref. Donc il y a beaucoup de discussions avec les futurs leaders du pays. Et puis, eh ben, du coup, on cherche les beaux terrains en général. Et puis, on se met pas trop loin aussi. On se met pas trop loin des palais présidentiels. Les palais présidentiels, qui pour la plupart étaient les anciens palais de gouverneurs, en fait, qui ont été ensuite rendus, avec une exception faite, c'était Madagascar. C'est arrivé un peu plus tard dans les années 70, suite à une révolution. Sinon, la France n'aurait pas rendu ce palais. Mais globalement, c'est les palais des gouverneurs qui sont rendus, et ça devient le logement, entre guillemets, du nouveau président. Donc on ne va pas se mettre trop loin des palais. Moi, j'ai fait une estimation. Sur un certain nombre de pays, on est à peu près entre 1 et 2 km, pas plus. Parfois même plus proche. Et on cherche un terrain, un beau terrain. Souvent, c'est des terrains de plusieurs hectares. Et on va installer l'ambassade, la résidence de France. Très important, je n'ai pas précisé, mais souvent, on parle des ambassades de France. Mais il faut savoir que l'ambassadeur, il a l'ambassade qui est l'ambassade administrative, dans lequel on a aussi le consulat, souvent. Pour ceux qui sont peut-être allés à l'étranger ou enfin, voilà, qui ont pu avoir accès pour avoir un visa ou pour avoir un problème, c'est le consulat. Et souvent, c'est l'ambassade administrative. Et puis, il y a la résidence de l'ambassadeur. Et donc, mais souvent, ces résidences, en tout cas toutes celles que j'ai pu voir sur place, que ce soit Côte d'Ivoire, Sénégal et d'autres, c'est sur des très beaux terrains qui ont été choisis un peu avant 1960. Donc, en fait, en général, préemptés par la France avant que les pays soient vraiment indépendants. Donc des terrains qui valent aujourd'hui très cher, hein, et qui sont souvent voilà, très arborés, plusieurs hectares, et c'est des grands bâtiments, très grandiloquents finalement. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est évidemment que la France ne quitte pas vraiment ces pays-là, et donc elle a besoin de montrer qu'elle est toujours là. Et la deuxième raison, c'est au-delà même de la présence française, c'est l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture est un vecteur quelque part de puissance. Et c'est un vecteur aussi de pouvoir. Et donc l'architecture elle-même doit montrer la puissance et le pouvoir en fait de la France. Et donc tout ça a été pensé assez rapidement. Voilà. Donc on est dans des bâtiments et des terrains qui sont vraiment d'un luxe assez incroyable. Il y a un ambassadeur au Gabon qui disait... l'ambassade de France, donc un des premiers ambassadeurs au Gabon, qui dit l'ambassade de France reste l'un des plus un havre, un des lieux les plus beaux de Libreville. Voilà. En fait, c'était l'idée, c'est-à-dire de dire voilà. Et donc, il avait construit le court de tennis, la piscine, etc. Il fallait s'installer dans le luxe.
Et l'ambassade d'Allemagne ou des États-Unis, c'est pas comme ça.
C'est pas du tout la même approche, en fait. J'ai surtout constaté d'un point de vue... j'ai discuté avec des diplomates américains. Ils n'ont pas du tout la même approche de la chose. Eux préfèrent être discrets. Voilà. Et puis surtout, la sécurité prime. Donc en fait, on est plutôt sur des bâtiments, c'est pas qu'ils sont moches, mais déjà, on ne les voit pas. Parce que souvent, il y a beaucoup de murs, etc. Donc en fait, l'esthétique de l'ambassade ne compte pas vraiment. Je ne sais pas si on... je ne crois pas que c'était qu'on allait... Mais je peux en parler, effectivement. Le 14 juillet, alors moi, j'ai retrouvé la construction de la résidence de France à Dakar au moment donc, de l'indépendance. Donc le premier ambassadeur, c'est lui qui a eu la charge de ça. Et donc son obsession, c'était d'être prêt pour le 14 juillet. Voilà. Et donc, si bien qu'au final, on se rend compte que la résidence, hein, on parle bien de la résidence de France, donc là où loge l'ambassadeur, si bien que la résidence était à peine finie, qu'il a quand même fait une réception de travaux assez rapide pour pouvoir accueillir le premier président du Sénégal, qui était Léopold Sédar Senghor. Et donc, il y a un compte-rendu où il raconte qu'ils ont pu fêter le 14 juillet avec Léopold Sédar Senghor dans la résidence de France de Dakar, et effectivement, c'est une tradition qui se perpétue et qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous ne voyez pas ça dans les autres pays, ou à de très rares occasions, un président qui vient dans une ambassade, c'est assez exceptionnel. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le 14 juillet, régulièrement vient, se montre à la résidence de France d'Abidjan. Donc on est, vous voyez, encore dans ce symbole qui est assez hallucinant. Et donc souvent, c'est prétexte à photos. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Facebook, hein, ils s'en cachent pas. Vous allez sur le site de l'ambassade de France à Abidjan et vous aurez les photos avec M. Alassane Ouattara et l'ambassadeur de France, etc. On est quand même dans quelque chose. Emmanuel Macron n'irait pas fêter une fête nationale dans l'ambassade à Paris de X pays. Donc on est dans un rapport de toute façon asymétrique. Et toujours dans ce luxe et cette démonstration quand même quelque part de luxe.
Globalement, moi j'ai vécu à Addis Abeba et il y a énormément d'ambassades là-bas, de beaucoup d'autres pays parce que c'est quand même
de l'Union africaine. Oui.
Mais globalement, vraiment le concept d'ambassade, de résidence d'ambassade, vraiment d'un point de vue matériel, c'est un truc de dingue en fait. Et c'est pas juste les bureaux en fait, c'est des compounds gigantesques avec, pour le coup, pour l'ambassade française, c'est une forêt entière.
Exactement. Alors ça, c'est très américain, c'est d'avoir tout sur place. Et on voit ça aussi chez les militaires. En général, ils construisent quasiment des petites villes en fait, où ils peuvent vivre entièrement. Mais l'Éthiopie, c'est intéressant parce que j'ai eu une discussion avec un ambassadeur en Côte d'Ivoire qui était passé par l'Éthiopie. Donc la résidence en Côte d'Ivoire est magnifique. Elle est au bord de la lagune. Comme je vous disais, c'est un parc magnifique, etc. Eh bien, la première chose qu'il m'a dit, ah, je regrette tellement la résidence en Éthiopie. On prenait le petit déjeuner le matin avec les animaux sauvages. Mais là, c'est vrai que dans un pays qui a été une ancienne colonie française, on comprend, on capte, on sent qu'il y a aussi cette... Voilà, parce que ça fait partie des premières ambassades qui ont été construites aussi. Et comme je le disais, c'est des terrains qui ont été négociés un petit peu avant les indépendances. Donc on est sur les plus beaux terrains, mais après, vous avez des ambassades à Abidjan de d'autres pays qui sont aussi magnifiques, enfin des résidences, je veux dire, qui sont aussi magnifiques, mais peut-être pas... Enfin, j'en ai pas vu, malheureusement, j'ai pas pu en visiter tant que ça d'autres pays. Mais par contre, pour revenir aux Américains, il y a un côté très pratique des Américains. Blocos, avec la sécurité d'abord, Et le côté pratique, vous parliez des petites supérettes dans le côté, genre, on est en sécurité, on peut vivre à l'intérieur. C'est pas tout à fait la même conception, en fait, quand on discute, voilà.
Sachant qu'il y a une chose dont tu parles et qui différencie le réseau diplomatique français en Afrique des autres, c'est son volume, c'est son importance.
Oui, effectivement, c'est le réseau le plus important, en fait, de tous les pays. Donc on a, je crois, maintenant 46 ou... 46 ou 47 ambassades de France en Afrique, donc sur 52 pays. Donc c'est le réseau diplomatique le plus important. Voilà. C'est un tiers, à peu près un tiers des ambassades de France dans le monde qui se trouvent en Afrique, en fait.
Pour des intérêts, théoriquement, ce dont on entend parler, c'est que la France n'a pas d'intérêt en Afrique, quasiment.
Non, elle n'a pas d'intérêt. Voilà.
Mais elle a un tiers de ses ambassades quand même.
Bon. Je raconte d'ailleurs une anecdote assez drôle aussi, c'est en Guinée-Bissau. Au sortir des indépendances, la Guinée-Bissau, la France décide d'installer une énorme ambassade et résidence de France à Bissau. Alors, la Guinée-Bissau, c'est un tout petit pays hein, qui est juste en dessous le Sénégal, qui est à côté de la Guinée-Conakry, qui donne sur la mer. Bissau, c'est, même encore aujourd'hui, c'est vraiment très petit, hein, ça reste vraiment très modeste. Et vous avez une énorme ambassade. Un des diplomates qui a accepté de me parler me dit d'ailleurs c'est scandaleux, vraiment le luxe de cette ambassade. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au sortir des indépendances, ils misaient sur la Guinée-Bissau, ils pensaient qu'il y avait du pétrole. Ils pensaient qu'il y avait beaucoup de pétrole, en fait, au large de la Guinée-Bissau. Et donc, en fait, ils ont été très déçus. En fait, ils n'ont pas trouvé vraiment de pétrole. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui encore, ils essayent de réduire un peu les dépenses en Guinée-Bissau, en tout cas de réduire les logements, ce genre de choses. Mais c'est pour dire que voilà, quand ils sont installés, effectivement, ils ont réfléchi aussi, bien sûr, aux intérêts de la France.
Alors, puisqu'on est dans, dans les questions matérielles, tu m'as paru assez critique dans ton bouquin, et c'était un euphémisme, du mode de vie entretenu. Alors, il me semble que ça peut s'étendre aux expatriés, mais globalement, tu cibles la partie
je cible ceux qui nous représentent.
Voilà. Alors déjà, bah, pourquoi tu veux parler surtout d'eux et ensuite, qu'est-ce que tu dis?
Bon, on se doute bien, c'est des hauts fonctionnaires, c'est des gens qui gagnent du coup très bien leur vie. Et d'autant plus quand ils sont évidemment à l'étranger. Bon, ça c'est une chose, on n'apprend rien, voilà. Le rapport est évidemment d'autant plus important quand on est dans un pays où, par exemple, le salaire moyen est de 50 euros et qu'on a un ambassadeur qui gagne 25 000 euros, peut-être. Et le moindre diplomate autour de 10 ou 12 000 euros. Bon, bref. Donc, évidemment, il y a un rapport qui est déjà, moi, qui me paraît assez fantasque, puisque c'est quand même de l'argent public. C'est notre argent. Mais après, c'est tout ce que ça engendre, en fait, derrière, dans le comportement, dans la manière, finalement, de se voir vis-à-vis des gens chez qui on vit. Et c'est pour ça que souvent je dis, j'ai voulu éclairer aussi la politique française par le bas. Parce qu'on parle souvent de la politique française en Afrique par le haut, c'est-à-dire quasiment la grande politique française en Afrique, de palais à palais. On parle donc de la France-Afrique, ce genre de choses. Moi, j'ai voulu voir aussi par ce que ça représentait chez les habitants de ces pays. Chez les Ivoiriens de base, etc., d'avoir en fait des gens, des étrangers, et leur comportement et leur manière de vivre. Et en fait, c'est assez logique et en même temps assez triste pour nous, Français, de voir la perception qu'ils ont finalement de nos représentants. Ils ont une perception qui est d'exploitation. Ils ont une perception de domination. Alors, financière, certes, mais également dans les faits. C'est-à-dire qu'on a des hauts fonctionnaires qui gagnent beaucoup d'argent et qui maltraitent, en tout cas qui ne traitent pas correctement, les gens avec qui ils travaillent, qui sont des locaux. Et à tout niveau, à tous les niveaux, on se rend compte que la France paye extrêmement bien donc ses hauts fonctionnaires, mais paye extrêmement mal ceux qui travaillent pour ses hauts fonctionnaires. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quelle est la psychologie finalement de ces diplomates vis-à-vis des Africains? Est-ce que en 60 ans d'indépendance, après 60 ans d'indépendance, est-ce que ces diplomates ont évolué dans leur manière de voir, de penser l'Afrique, de voir les Africains et de discuter avec, ne serait-ce que discuter avec eux? Évidemment, je ne veux pas généraliser. Si ce bouquin existe, c'est qu'il y en a quelques-uns qui étaient outrés et qui m'ont parlé. Mais globalement, c'est pour ça que je parle d'héritage colonial, on a encore des hauts fonctionnaires qui considèrent les Africains quand même comme des gens un peu inférieurs et qu'il y aurait encore une mission civilisatrice de la France. Et ça se traduit dans le quotidien, c'est-à-dire comment l'ambassadeur se comporte avec son domestique, avec son employé de cuisine. Je recueille le témoignage d'un cuisinier qui a été embauché par un consul, et il raconte comment il a été traité et comment il a été viré de manière violente. Comment on lui parlait, enfin voilà, comme un boy. C'est lui qui dit j'avais l'impression d'être un boy. Et donc, je m'interroge, je dis, en 2022, est-ce que c'est encore possible d'avoir des gens qui nous représentent, qui vous représentent et qui se comportent ainsi avec leurs employés?
Sachant qu'on n'est pas obligé là d'entrer dans tous les détails, mais tu parles de scènes franchement sordides, on parle de prostitution, de drogue, où il y a des morts. Et d'une part, c'est des trucs, nous, citoyens, on n'en entend pas vraiment parler. Et puis, on a l'impression que les personnes incriminées sont pas des justiciables comme nous, quoi.
Bien sûr, ils sont pas des justiciables comme nous. D'abord parce qu'ils sont dans des, ils ont une protection diplomatique. Ensuite, parce qu'il y a ce rapport aussi financier, je pense. La question, on va aller dans le détail, mais pas dans le détail, mais globalement, la question du comportement sexuel, qui pourrait, comme tu disais tout à l'heure au début, on pourrait en parler aussi sur les expatriés, mais là, c'est les gens qui nous représentent. Moi, j'ai pas, en discutant avec d'autres, avec des diplomates qui vont dans d'autres pays et qui ont accepté de me parler parce qu'ils trouvaient ce comportement inadmissible.
Quand tu dis d'autres pays, c'est non-africains.
Non-africains, pardon. Okay. Oui, d'autres continents, je pourrais peut-être dire. Voilà. M'ont dit, on ne voit pas ça ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un comportement vis-à-vis des femmes africaines. Et ça, je discute avec notamment des chercheurs qui le théorisent, mais qui n'est pas le même que celui... alors, on retrouve peut-être... J'ai discuté avec... on retrouve un petit peu ça en Asie. En Asie du Sud-Est, où la France, d'ailleurs, avait une grande colonie, hein, l'Indochine. Mais globalement, on ne retrouve pas ces comportements ailleurs. Par exemple, on ne va pas retrouver ces comportements aux États-Unis, en Amérique du Sud, ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment flagrant. Il y a beaucoup d'affaires. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont étouffés. C'est-à-dire qu'en fait, un diplomate qui se comporte mal et qu'il y aurait une plainte ou ce genre de choses, au mieux, il est changé de place. Il revient à Paris, puis après, il repart. Au pire, il a un blâme ou il est un petit peu sanctionné. Mais ça reste toujours en interne du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères. On préfère laver son linge sale en famille. Il y a des comportements, je les raconte, de pédophilie, de recours à la prostitution. On a, et alors ce qui est, on a aussi, même dans la vie quotidienne, moi ce que je dis aussi, c'est que je ne veux pas juger la vie privée de ces gens. Ils ont le droit d'avoir une vie privée. Ça les regarde. S'ils tombent amoureux de quelqu'un, enfin, je veux dire, ça me regarde absolument pas. Mon problème, c'est quand ils ont des comportements extravagants dans des bars qui sont des bars à prostitution. Dans un pays où ils gagnent 100, 10, 1000 fois le salaire de ces gens, et qu'ils s'exposent. Et ils s'exposent à quoi? Ils s'exposent aussi à du chantage, à ce genre de choses. Donc, c'est des gens quand même qui nous représentent. Comment peuvent-ils se comporter comme ça? Et donc, jusqu'à recueillir, moi, j'ai recueilli des photos, parce que les gens se font prendre en photo. Certains même s'exposent sur Facebook. Et donc, on se dit, mais ces gens nous représentent. Ces gens sont des diplomates, des hauts fonctionnaires. Ce sont des gens qui représentent la France. Et après, quand vous discutez avec les victimes, vous dites, bah oui, c'est toujours comme ça. Certains disent, il y a eu dans certains travaux de recherche, une chercheuse en particulier qui a recueilli des témoignages qui dit, toucher les fesses, en Afrique, toucher les fesses d'une femme, même mariée, c'est pas comme ailleurs. Donc pourquoi c'est pas comme ailleurs? Et en fait, si on remonte, c'est parce qu'il y a tout un héritage de la sexualisation de la femme africaine, des colonies, etc. Donc ça remonte assez loin. Et on avait, il y a des travaux qui sont sortis sur toute la photographie de la femme africaine sexualisée, etc. Et c'est quelque chose qui perdure en fait. Et donc, on se permet des comportements dans ces pays qu'on ne se permettrait pas ailleurs. En tout cas, on ne le montrerait pas aussi, de manière aussi décomplexée, j'ai envie de dire. Oui. Bien sûr.
Il y a une défaillance de l'État, mais il y a une défaillance de l'État parce qu'il y a beaucoup de dirigeants africains.
Bien sûr.
Au sein même des grosses entreprises qui se permettent tout, ce qui fait que c'est pas... Normalement, eux, ils ont le pouvoir de dire... Tel diplomate a fait des bêtises, bon, mais ils ne vont pas les poursuivre parce qu'eux-mêmes sont aussi incriminés et en toute impunité.
Il y a effectivement Si je le dis, ça risque de se retourner contre moi parce que moi-même, j'ai un comportement, etc. Mais j'ai d'ailleurs une autre... Mais on va aller plus loin. Quand il y a eu... quand il a commencé à y avoir des problèmes, entre guillemets, pour les Français au Mali, vous avez l'ambassadeur... donc, en fait, la France se plaint qu'il y ait un sentiment anti-français qui se développe au Mali. Et donc, la France se plaint que, on va dire, les dirigeants maliens laissent faire cette propagation du sentiment anti-français. Je résume, mais en gros, c'est ça. Il convoque l'ambassadeur malien. Il convoque l'ambassadeur malien, comme ça, très honnêtement, ça se fait. Donc, voilà, quand il y a un problème avec un pays, on convoque l'ambassadeur. Il convoque l'ambassadeur malien, qui est entendu par une commission parlementaire française à Paris. Et l'ambassadeur malien, peut-être de manière maladroite, son discours, c'est vrai, moi j'ai lu toute sa déposition, ça peut être parfois un petit peu alambiqué, mais globalement, pointe des choses. Et il dit une chose, il dit, le comportement, on assiste à Bamako à des comportements de militaires français qui ne sont plus acceptables, je parle mieux, peut-être même mieux que lui, mais qui ne sont plus acceptables pour la plupart des Maliens. On assiste, il dit, je crois qu'il dit le Pigalle.
Il dit, ouais, c'est ça, hein, il faudrait arrêter de se croire dans un bordel.
Dans un bordel, en gros. Donc il dit ça. Bronca des parlementaires, parce que, en fait, après, je vais vous expliquer, c'est que, pour le récit, c'est que sa déclaration a été tronquée, enfin voilà. Mais la déclaration entière, et puis après, donc, il y a la réponse des parlementaires qui censurent en disant, mais monsieur, en disant ça, vous n'allez faire que alimenter le sentiment anti-français, ce sera repris, etc. Enfin, donc, il n'écoute pas ce qu'il dit. Il ne cherche pas à écouter. Il ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche même pas, du coup, à se dire « Ah, mais ce qu'il dit, peut-être qu'il y a un problème. Il faudra peut-être qu'on aille enquêter, voir ce qui se passe, etc. » Non, non. La première réaction des parlementaires français, c'est de dire « Monsieur, vous allez alimenter le sentiment anti-français. Il ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou faux. » Et ensuite, on a vu dans les journaux la déclaration de l'ambassadeur malien qui ensuite a été rappelé au Mali. Enfin, ça a fait toute une crise diplomatique. Tronqué. C'est-à-dire que on n'a pas, donc j'ai tenu à restituer dans le livre vraiment tout l'échange qui est surréaliste et qui montre bien à quel point on ne veut pas entendre ça, y compris devant une commission parlementaire. Donc oui, les dirigeants eux-mêmes, ce qu'on appelle les élites africains. D'ailleurs, on parle d'alliances entre élites africaines et françaises. C'est-à-dire qu'il y a une communauté d'intérêts, finalement, quelque part. Mais globalement, il ne faut pas non plus... Voilà, et l'un n'excuse pas l'autre. Et c'est à la France aussi d'investir ce problème et de régler ce problème de ces ressortissants qui se comportent ainsi dans un pays étranger. Vous sauriez, aux États-Unis, il y aura un scandale comme ça. On l'a vu avec... bon, là, je prends un cas que tout le monde connaît, Dominique Strauss-Kahn, c'est les menottes. On l'emmène au poste et c'est même filmé et ça fait scandale. Voilà. Là-bas, non. Là-bas, on étouffe, on rapatrie. Et même pour un cas que je raconte, où il y a un cas grave, on empêche sur place la police de faire son enquête. On ramène, on l'écoute à Paris et puis on le renvoie, il finit sa mission.
Il me semble que ce que tu pointes là, de manière générale, c'est la symétrie de pouvoir. Quoi. Simplement, on ne peut pas tolérer, l'État français a les moyens de ne pas tolérer qu'un juge ou la police fasse, mette en cause...
Africain.
Africain, si, allemand, il pourrait, mais...
Voilà.
Mais voilà, pas centrafricain. Attends, je me suis perdu. Vous pouvez m'aider si vous avez des questions. Bonne question.
C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Alors, beaucoup tentent de sortir des affaires. Ils se retrouvent aux mêmes difficultés qu'un média français ou que moi, c'est-à-dire de fournir des preuves. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beaucoup de rumeurs. Ce que je raconte souvent quand on me pose des questions là-dessus, je dis j'ai peut-être 10 fois, 20 fois ce que j'ai mis dans le bouquin en signalement, ce genre de choses, mais je ne peux pas toujours apporter la preuve. Donc je ne peux pas le publier. Je ne peux pas l'écrire. Donc beaucoup tentent, beaucoup sont intimidés aussi, et beaucoup sont, alors pas forcément par d'ailleurs le pouvoir français, aussi par les pouvoirs africains pour qu'ils n'écrivent pas. Mais j'ai un cas assez drôle que je raconte pas dans le bouquin parce que c'est un pays anglophone, c'est le Libéria. Vous avez un ambassadeur au Libéria qui a été rappelé à Paris suite à des accusations de deux prostituées. Et alors vous allez peut-être sourire, mais c'est quand on va dans le fond, c'est pas très drôle. Elles accusaient l'ambassadeur de ne pas avoir payé. C'est-à-dire qu'il avait recouru, il avait eu recours à deux prostituées et ces deux prostituées sont allées se plaindre de ne pas avoir été payées. Voilà. Et un journal local sort l'affaire avec le témoignage des deux prostituées, etc. L'ambassadeur est rappelé à Paris. C'est très rare. Je le précise parce que c'est très rare qu'un ambassadeur soit rappelé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des rumeurs, il peut y avoir des tas de choses. On attend souvent le dernier moment. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose quasi d'épreuve pour que l'ambassadeur soit rappelé. L'ambassadeur est rappelé. Et quelques semaines plus tard, il y a un erratum dans le journal local qui dit que les prostituées avaient menti, ce genre de choses. Je n'ai pas enquêté spécifiquement sur cette affaire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'affaire était quand même a priori suffisamment grave. Donc, est-ce que cette affaire de ces deux prostituées était vraie ou pas, je suis incapable de le dire. Mais il est fort possible qu'il y ait eu une inspection, comme ça se passe, une inspection générale. Voilà, ils viennent en interne, ils inspectent. Et peut-être qu'ils ont levé des comportements, de manière générale, de cet ambassadeur pour être suffisamment grave pour le rappeler. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est un erratum ensuite dans le journal un peu plus tard.
Et puis, il me semble, je ne sais plus si c'est resté dans la version finale, mais il me semble que tu parles aussi de cette histoire des journalistes. Il me semble que c'est au Togo. Au Bénin, oui, où on voit l'ambassadeur qui n'hésite pas à recourir à des services de censure dont on sait qu'ils sont...
Là, c'est sur d'autres affaires. C'est vrai que j'y pensais pas parce que, oui, effectivement, c'était pas des affaires de mœurs. Mais effectivement, il y a un chapitre dans lequel je parle justement des journalistes locaux qui sont souvent malmenés, ne serait-ce que par leur pouvoir déjà. C'est-à-dire le pouvoir, les pays dans lesquels ils vivent, ils sont déjà dans une certaine précarité, fragilité, parfois menace. Et donc, il y a eu, à un moment donné, un basculement, il y a quelques années, où d'habitude, les diplomates français, s'ils étaient attaqués par les journaux, ils avaient ordre, quelque part, un droit de réserve de ne surtout pas commenter ou même de... Voilà. Puis, ça s'est basculé il y a quelques années. Et donc, il y a eu quasiment... il n'y a pas de note officielle, mais grosso modo, on leur a dit, si vous voulez, si vraiment on nous attaque, et on peut répondre. Et donc, au Togo, l'ambassadeur, il est attaqué. On lui dit que, grosso modo, il défend le dictateur Faure Gnassingbé, que la France défend le dictateur Faure Gnassingbé, etc., etc. Et donc, il dit ça. Il trouve que c'est scandaleux. Et donc, il ne demande pas un droit de réponse, qui aurait été la chose logique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes quand on se sent diffamé. La première chose, c'est qu'on demande un droit de réponse. Il ne l'a pas fait, il est allé à la haute autorité de régulation des journaux, enfin de communication. Et il est allé poser un dossier de plainte. Or, ces hautes autorités dans ces pays, comme le Togo, sont évidemment à la botte du pouvoir. Et donc, s'en est suivi une décision, c'est-à-dire que ces journaux qui sont précaires, hein, vraiment financièrement, ces journalistes précaires financièrement, on les a interdits de publication pendant 3 mois. Donc cet ambassadeur qui aurait pu demander un droit de réponse et ça serait terminé comme ça, sont allés directement vers une agence gouvernementale, ou en tout cas à la botte du gouvernement et de l'État, pour demander qu'il y ait, et c'est écrit quasiment comme ça, une sanction contre ces journaux et contre ces journalistes. Voilà, c'est pour dire que effectivement les journaux, la presse locale, qui est déjà malmené par ses propres pouvoirs, est aussi éventuellement malmené par la diplomatie française quand elle est attaquée. Un diplomate me dit un jour entre deux couloirs, il me dit, oh, tu sais, la presse dans tel pays, pour quelques milliers de Français CFA, on leur fait écrire n'importe quoi. Et il m'a dit ça de manière très décomplexée.
Alors, on va continuer sur les questions bassement matérielles. Il y a une chose que j'ai trouvée frappante, parce qu'on n'a pas du tout l'image de ça. On a quand même l'image de, OK, bon, alors ils sont en train de vivre un peu délirant. On a le sentiment que ce n'est pas toujours réglo, mais quand même, même si ce n'est pas réglo, quelque part, ils servent la stratégie de l'État français, du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Et puis ce dont tu parles, c'est que finalement, bah, y a ça, mais il y a quand même des à côté. Alors que c'est ce qui peut venir à la retraite ou dès le début de la retraite, voire un peu plus tôt. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
Oui. Quand on est ambassadeur dans un pays, on a accès à un carnet d'adresses assez phénoménal, évidemment. On a accès aux plus hautes fonctions de cet État. Donc, dans ces pays, anciennes colonies, carrément au patron, quoi, au président. On discute avec les plus grands hommes d'affaires du pays. Bref, on se constitue un carnet d'adresses qui est quand même l'un des plus fournis. Voilà, un grand carnet d'adresses. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis... alors, ça a toujours existé. Hein. Donc, on appelle ça le pantouflage. C'est-à-dire le fait ensuite de se recycler et finalement de vendre son faire valoriser son carnet d'adresses. Alors ça pose plusieurs questions. Alors ça a toujours existé, mais c'était plus ou moins connu. Par exemple, à l'époque de Elf, toutes les affaires de Elf au Gabon, etc. On a toujours vu des diplomates défiler dedans, mais qui étaient plus ou moins encore en accord avec l'État français. Enfin, il y avait quelque chose d'intérêt étatique. Aujourd'hui, on a des intérêts vraiment personnels. C'est des intérêts personnels qui guident en fait souvent des secondes carrières et des pantouflages. Et effectivement, je pose la question parce que sur un certain nombre d'exemples, on se rend compte que quasiment le jour de la retraite, le lendemain, on retrouve certains de ces diplomates dans des grandes sociétés françaises qui ont des intérêts en Afrique.
Ou pas françaises. Moi, j'ai un cas qui me vient, alors qui n'est pas le même secteur géographique. Mais il y a un type dont on entend pas mal parler parce qu'il passe bien à la télé, c'est Gérard Araud, oui. qui est vachement intéressant à beaucoup d'égards, hein, si vous voulez savoir ce que pensent les néocons américains. Voilà, qui prenait quand même bien la défense de NSO sur les questions de vente du logiciel Pegasus, donc d'infiltration et d'espionnage des téléphones notamment. Qui sert essentiellement à traquer les journalistes.
Et qui avait eu des...
Et Gérard Araud, il a commencé à faire des piges pour NSO au premier jour de sa retraite, et il a eu un rappel à l'ordre. Il y a une autorité qui dit, disons, c'est un peu tôt, t'aurais dû attendre. Et il a dit, ah oui, c'est vrai, j'aurais dû. Il m'a dit, c'est pas bien, et puis ça s'est arrêté là. Donc
à l'ambassadeur qui part à la retraite et qui souhaite faire des affaires ensuite... Normalement, il a deux choses. Il y a deux choses. Normalement, il y a une autorité qui est censée étudier le dossier. Donc, il doit avoir l'autorisation de cette autorité. La première chose, c'est qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Et la deuxième chose, normalement, il est censé attendre 2 ans. Quelqu'un confirme ? Et bien sûr, quand j'ai fait mes recherches sur ce point précis de l'après-retraite, on se rend compte que en fait, presque aucun n'attend 2 ans pour soit lancer leur propre activité, soit être embauché dans une autre activité. Je parle notamment par exemple de CMA-CGM, vous connaissez peut-être, qui est le grand transporteur maritime français. C'est des habitués, c'est-à-dire qu'ils ont régulièrement des diplomates. Et le dernier qui a été embauché, c'est Georges Serre, qui était donc ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on sait que les ports... En Côte d'Ivoire, c'est extrêmement important, l'accès au port. Donc là, clairement, il y a un intérêt stratégique pour CMA-CGM d'avoir un ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui a toutes ses ouvertures. Et d'ailleurs, il y a une photo célèbre, c'est Jeune Afrique d'ailleurs qui le raconte avec force détail, une grande réunion où il y a Georges Serre, Rodolphe, l'héritier de CMA-CGM. Je crois qu'il me demande même s'il n'y avait pas Nicolas Sarkozy. Enfin, il y a eu toute une sauterie avec Alassane Ouattara, etc. Il y a une belle photo de famille. Bref, donc on voit bien le niveau d'implication. Et Georges Serre n'a pas attendu ces 2 ans pour rentrer à CMA-CGM. Un autre exemple que je détaillerai pas dans le, j'irai pas dans le détail, mais dans le livre aussi, c'est quelqu'un qui s'est recyclé dans le, dans les visas, dans la privatisation des visas. Et cette personne, bah, je l'ai, on a discuté longuement, ne voit pas de problème en fait. Hein. Lui, il a été consul pendant longtemps. Et les premiers pays dans lesquels il a installé des sociétés privées pour gérer les visas, c'était les pays dans lesquels il avait été consul. Algérie, Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est conseiller d'un des plus gros, d'une des plus grosses entreprises mondiales de privatisation des visas. Et donc, c'est lui qui gère les appels d'offres. Et il habite à Nantes, à côté de France Visa, à, allez, moins d'un kilomètre, un kilomètre peut-être, du pôle où se décident les choses au niveau des visas, qui s'appelle France Visa. Et donc, où il va régulièrement discuter. Il intervient aussi sur la discussion des lois, ce genre de choses. Il est consulté. Voilà. Et en même temps, il roule pour la plus grosse entreprise privée de gestion des dossiers de visa.
Alors oui, tu parles de la privatisation des visas. C'est quoi ?
Alors, la privatisation des visas, c'est quoi ? À l'époque, quand on allait, jusqu'à il y a une 10-15 ans, quand on allait... quand on voulait un visa, quand on était africain, qu'on voulait aller chercher un visa pour la France, on allait au consulat de France. Bon. Alors, ça générait beaucoup de problèmes. Voilà, il y avait des queues d'attente devant le consulat. Il y avait, voilà, il fallait des employés pour regarder les dossiers. Bref, c'était fastidieux, évidemment. Et donc, on a décidé petit à petit de sous-traiter cette question à des entreprises privées. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous avez, en Afrique, en tout cas sur les pays dont je parle, vous avez trois acteurs principaux qui s'occupent de ça. Vous avez VFS Global, qui est une entreprise d'origine indo-suisse installée aujourd'hui à Dubaï, et qui est la plus grosse mondiale, la plus grosse entreprise mondiale, qui a déjà récolté 3 ou 400 millions de données personnelles, voilà, parce que c'est des gens qui collectent les données personnelles. Vous avez ensuite TLS Contact, qui est une filiale d'une grande entreprise française Téléperformance, vous avez peut-être entendu parler, qui est une entreprise de centre d'appel à la base, dont le milliardaire Jacques Beribi, l'un des fondateurs, est un exilé fiscal en Belgique. Et d'ailleurs, lui, comme le patron de VFS Global, ont été décorés par la France. Hein. Ils ont tous eu une petite médaille. Et puis, vous en avez un troisième, une espèce d'outsider qui s'appelle Capago, qui est arrivé un peu tardivement, et donc je n'ai pas encore enquêté sur lui, mais qui est français. Donc voilà, en fait, ils se partagent en fait, ce marché à trois, et c'est beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Et alors la France, la diplomatie française, en tout cas le Quai d'Orsay, aurait pu choisir le modèle anglais. Les Anglais, ça fait longtemps qu'ils ont privatisé... la gestion des dossiers, c'est-à-dire que la décision finale, c'est toujours le consulat qui décide ou pas de donner le visa. Mais la gestion des dossiers, donc la réception des demandeurs, de leurs dossiers, voir si leurs dossiers sont conformes ou pas, est donc sous-traité. Et les Anglais, ils font un appel d'offres global au niveau de Londres. Ils disent, voilà, le marché des visas pour l'Angleterre, on fait un appel d'offres. Et c'est l'Angleterre qui paye l'entreprise ensuite pour gérer les dossiers. Ce qui veut dire qu'il n'y a eu aucune incidence sur le prix des visas. La France, elle a décidé de faire autrement. Elle a dit, chaque ambassade, chaque consulat va faire un appel d'offres. Et le prix des visas sera payé par les demandeurs. Qu'aujourd'hui, hier, quand vous payez, quand un demandeur africain payait le prix, alors c'est un prix fixé par Schengen, mais c'était 60 euros à l'époque, 80 euros aujourd'hui, il allait au consulat de France, il payait, il s'affranchissait quelques frais de dossier, mais globalement du prix du visa. Aujourd'hui, quand il passe par cette entreprise, son coût de revient pour la demande de son visa a doublé. La finalité de tout ça, c'est que en plus, si vous n'avez pas votre visa, vous n'êtes évidemment pas remboursé. Voilà. Donc, il y a effectivement des gens qui font beaucoup de demandes, etc. Et c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. J'ai encore écrit récemment sur Afrique 21, sur ces questions, parce que au moment de la, enfin chaque année, au moment de la rentrée étudiantine en France, vous avez énormément d'étudiants africains qui se retrouvent sur le carreau, qui ne peuvent pas venir en France parce qu'ils n'ont pas obtenu leur visa et qui ont dépensé des sommes inimaginables quand on a un pouvoir d'achat si faible. des jeunes qui se sont endettés, des familles qui se sont endettées pour pouvoir envoyer leurs enfants étudier en France et qui n'ont pas eu leur visa. Et souvent, sur des motifs qui sont préécrits, hein, vous avez sept motifs, je ne vais pas les détailler, mais souvent, c'est il y a un document qui ne va pas. Enfin, voilà. Et ils n'ont pas de réponse, ils n'ont plus d'interlocuteur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même plus s'adresser au consulat, à savoir c'est quoi le document qui ne va pas, je vais vous le refaire. Non, maintenant, ce qui fait barrière, c'est la société privée. Et la société privée, quand ils s'adressent à la société privée leur dit, c'est pas nous qui avons décidé, c'est le consulat. En fait, on tourne en rond. Alors, il existe une procédure. C'est-à-dire que ces demandeurs qui sont déboutés, d'ailleurs, il y a eu une décision il n'y a pas longtemps sur une demande d'une Camerounaise qui a fini par avoir gain de cause. Ça a pris 2 ans ou 3 ans, je crois, pour aller au bout de la procédure et à obtenir un peu de remboursement et surtout obtenir le fait qu'ils avaient refusé de manière illégale sa demande de visa. Mais cette procédure, elle est extrêmement compliquée. C'est une demande à France Visa en France. C'est une procédure administrative très complexe que la plupart des demandeurs africains ne peuvent même pas comprendre. Je veux dire, c'est très compliqué. Je passe les détails que tout se fait maintenant sur Internet, que beaucoup n'ont même pas accès à Internet. Enfin, je passe tout ça. Tout ça pour dire qu'au final, ce que j'ai appelé ça, moi, au final, le business des visas. Parce qu'en fait, c'est très rentable. Depuis qu'ils ont privatisé la France, enfin le Quai d'Orsay, c'est d'ailleurs le seul poste du ministère des Affaires étrangères qui gagne de l'argent. Et c'est très rentable. C'est plusieurs centaines, enfin, ça doit être 200. Enfin, mes derniers chiffres datent peut-être de 3 ans, mais c'est 250-300 millions d'euros par an. Donc en fait, ils gagnent beaucoup d'argent avec ça, en refusant.
Oui, sachant qu'il y a la question de l'argent payé par les demandeurs de visa. Mais derrière, ils donnent une matière première qui, elle aussi, vaut de l'or. C'est que ces boîtes, elles accumulent une quantité de données phénoménale avec les identités biométriques des demandeurs. Et ça, c'est demandé. Et ça, alors, voilà, j'en parle parce que c'est mon dada. Mais
non, alors là, c'est effectivement une question. Alors, moi, j'ai voulu savoir exactement ce que ces boîtes faisaient de ces données personnelles. Hein. Quand vous allez là-bas, donc moi j'ai visité un de leurs centres. Donc en fait, ils prennent les empreintes digitales, parfois l'iris. Ils ont évidemment accès à toutes les données bancaires. Ils ont accès, ils ont accès vraiment à la vie de ces gens. Et la réponse, pour toute réponse, c'est parce que j'ai demandé à savoir. Et pour toute réponse, c'est ça ne fait que transiter sur nos serveurs. Ça va directement ensuite sur le serveur de la France, enfin du consulat et France Visa en France. Et donc ensuite, je me suis posé la question, je dis d'accord, mais est-ce que la France vérifie ça? Elle sous-traite à une société, c'est à elle, c'est son devoir d'aller vérifier que ce que dit la société, ce qu'écrit la société sur papier, c'est vrai sur eux. Voilà. Et ce dont je me suis aperçu, et d'ailleurs la France avait été épinglée par la CNIL à un moment donné, qui est ensuite revenue, qui a été plus gentille après, mais a d'abord été épinglée, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les compétences interne pour auditer ces gens. Qu'en fait, ces gens ne sont jamais audités. Ils devraient être audités 2 fois par an. Ils ne le sont, dans les faits, quasi jamais. Donc en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Ces données personnelles peuvent être... D'ailleurs, vous allez sur le site de VFS Global. Le premier chiffre qu'il y a sur le site de VFS Global, c'est le nombre de demandeurs qu'ils ont enregistrés. Ils en font comme... C'est comme un slogan de dire on en est à 300 millions, 400 millions de demandeurs enregistrés. Voilà. Et ensuite, j'ai fait d'autres tests. Je me suis fait passer pour un demandeur parce qu'ils disent, VFS Global ou d'autres, ou TLS, qu'ils répondent aux législations de chaque pays. Je dis, ah bah tiens, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fonction de la législation du pays, ça veut dire que leurs règles bougent, éventuellement. Et effectivement, j'ai fait une demande en tant que Congolais pour aller en Chine. Ah bah alors là, vous n'avez pas du tout les mêmes lignes. Hein. Alors là, on vous dit que vos données peuvent être transmises à la police, peuvent être transmises à tel État étranger, enfin, etc. C'est complètement... les petites lignes en dessous là, qui vous disent vos droits par rapport à vos données personnelles changent du tout au tout. Et juste pour terminer sur cette question, d'ailleurs, VFS Global commence à fournir des services de traçage. C'est-à-dire des services de traçage, notamment dans ce qu'on appelle la lutte contre l'immigration. Vous savez. Et donc, en Afrique du Sud, ils ont mis en place un système qui permet, dès l'entrée d'un migrant en Afrique du Sud, de le tracer. Voilà. Donc, bah oui, parce que la législation et parce que l'État sud-africain leur a demandé de le faire. Donc, ils ont la capacité de le faire. Et donc, mon interrogation, qui n'a pas de réponse, puisqu'ils ne répondent jamais précisément ou avec des mots très flous, c'est voilà, ces données sont-elles pas stockées en attendant qu'eux ?
Alors, moi, j'arrive bientôt au bout. C'est bien, il est 8h15. J'avais une question sur ce dont on parlait tout à l'heure. C'est les réactions que tu as eues suite à la publication du livre dans le champ diplo ou autre. Ouais.
Ils ne sont pas très contents. par le futur procès. Non, j'ai eu... Alors, il y a des sources internes qui étaient très presque soulagées que les choses sortent, parce que comme je le dis, c'est que si j'ai pu aller relativement loin, et encore une fois, je vais expliquer après. Le premier message que j'ai eu, voilà, je vais commencer par ça. Le premier message que j'ai eu d'une personne du Quai d'Orsay a été, il était temps que quelqu'un mette un pied dans la fourmilière, mais c'est 100 fois pire. Voilà. Donc, j'ai dit, bien sûr, et c'est ce que je vous ai dit, il y a plein de choses, j'ai plein de signalements, on ne peut pas tout écrire tant qu'on ne peut pas le prouver. Donc déjà, je me suis dit, bon, ça va, j'étais pas trop à côté de la plaque. Ensuite, j'ai eu des réactions de gens soulagés qui m'ont dit, il était temps que, voilà, qu'on écrive là-dessus, qu'on le dise, parce que c'est l'intérêt public. Si je l'ai écrit, c'est parce que c'est d'intérêt public, ces gens nous représentent. Et l'image qu'ils donnent, pour certains, encore une fois, je ne veux pas généraliser, certains sont outrés par le comportement, mais ne peuvent pas le dire. Mais globalement, ces gens qui donnent cette image, ben, en fait, ternissent notre image. Et ne, voilà. Moi, personnellement, tous ces gens-là, je ne me sens pas représenté par ces gens. Enfin, voilà, je peux pas. C'est... Voilà. Et ensuite, il y a eu d'autres réactions, bien sûr, un peu plus frileuses. Il y a certaines personnes qui ont décidé de prendre de la distance parce qu'ils ont peur aussi d'être liés à moi, vu que ça fait un peu de bruit. Enfin, un peu de bruit en interne, en tout cas. Voilà, grosso modo, les réactions de l'intérieur. Ouf.
Anciennement, centre culturel français en Afrique, désormais institut français, parce que ça fait okay. Ce qui est complètement débile. Voilà, qu'est-ce que là-dessus.
Alors, figurez-vous que dans la première mouture de mon plan de livre, je ne sais pas si tu l'avais lu celle-là, mais bref, je voulais m'attaquer à tous les symboles en fait. Je voulais parler de l'ambassade, de la chancel, enfin de la résidence, je voulais parler et de toutes les petites. J'appelle ça des métastases, l'Institut français, l'Agence française de développement, voilà, je voulais m'attaquer à tout ça. C'était un chantier impossible. J'ai réduit sur les bons conseils de mes éditeurs, on a réduit le champ. Et puis, et pour répondre à votre question, oui. Alors, encore aujourd'hui, je travaille sur ce sujet, et notamment sur les instituts, mais c'est très compliqué. Ils ont un statut très particulier. L'Institut français est censé être un établissement autonome. Dans les faits, il dépend de ce qu'on appelle le COCAC, le SCAC, le service culturel et d'action, service de coopération et d'action culturelle, pardon. Et donc de son conseiller COCAC, de coopération et d'action culturelle. En fait, ils dépendent, etc., mais ils ont un statut à part qui est un statut autonome. Donc, voilà. Et donc, du coup, ça permet... Voilà, par exemple, vous avez à Paris le siège des instituts français. Enfin, il s'est présenté un peu comme tel. J'étais au téléphone avec eux il n'y a pas longtemps pour quelque chose. Et puis, du coup, j'ai demandé à avoir accès à certaines choses. Et ils m'ont dit, mais c'est institut par institut. Voilà. Donc, en fait, même au siège, entre guillemets, de l'institut, on ne peut pas avoir accès à ce qui se passe dans un institut qui est dans un... Donc, voilà, c'est très compliqué.
Oui.
Vous avez parlé de l'influence de la France, par exemple, par les instituts ou l'architecture ou autre. Mais je ne sais pas si vous avez abordé ça dans votre livre parce que je n'ai pas encore lu, mais de la langue aussi. Que pensez-vous, par exemple, du sommet de la francophonie qui s'est tenu, je suis tunisienne, qui s'est tenu
en Tunisie, oui.
Ouais, et qui a fait, il y a un passage de Macron qui a un peu fait fois qu'il était un peu triste que la francophonie était en baisse en Afrique. Et par exemple, il y a certains pays comme l'Algérie qui se détachent un peu plus de la colonisation, par exemple en passant à des enseignements en anglais. Voilà, moi ça m'a un peu choqué qu'il y a encore un sommet de la francophonie et que le président français était désolé que la francophonie était en baisse. Mais la réalité est que c'est la seule langue qui unit toute l'Afrique, en fait. Voilà, vous en pensez.
Donc c'est pas la langue qui unit toute l'Afrique, hein, le français.
Si je vais communiquer avec un subsaharien.
Oui, mais l'Afrique c'est 50, plus de 50 pays. Vous avez une grande partie anglophone.
Oui, c'est vrai.
Vous avez une partie également lusophone, qui est importante. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, c'est pas grave. Vous avez l'équivalent de la francophonie chez l'équivalent lusophone avec la CPLP. Donc bref, c'est un instrument d'influence. Comme un autre. Les propos d'Emmanuel Macron sont dans la droite ligne de la politique française en Afrique. C'est de dire on perd un peu de langue française, donc on perd de l'influence. C'est ça qu'il dit. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec toute l'hystérie autour de la... Je vais pas dire hystérie, j'aime pas ce mot, mais avec la Russie, on parle que de la Russie, en Afrique qui gagne du terrain sur... sur les intérêts français, etc. Bon. Qu'il y ait un sommet de la francophonie, il ne faut pas qu'on soit non plus des naïfs. C'est-à-dire qu'un pays qui veut avoir une place mondiale se doit d'avoir des outils d'influence. Voilà. Okay. Maintenant, il y a la manière de faire, il y a la manière d'être, la manière de... etc. Ce qu'on voit, c'est vrai, et je trouve que c'est plutôt encourageant, moi, à mon avis. C'est que les pays, en tout cas les pays que je connais, africains, donc d'Afrique plutôt subsaharienne, ont tendance, ils ont déjà plusieurs langues locales en général. Il y a le français qui est une langue en général, on va dire nationale, mais à côté, il y a d'autres langues nationales. Je prends l'exemple du Sénégal, vous avez le Wolof, le français. Bon. Aujourd'hui, il y a quelques années, peut-être 10-15 ans, quand j'ai commencé à aller sur le continent africain, et notamment au Sénégal, le français était vraiment très... Enfin, j'avais tous les chauffeurs de taxi parlaient français, etc. J'y vais aujourd'hui. Il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui parlent plus français, qui parlent Wolof, etc. La radio en Wolof a pris du poids, etc. Donc c'est en fait une réappropriation de la souveraineté de la langue. Voilà. Donc moi, je suis pas étonné, si vous voulez, du sommet de la francophonie. Je suis même pas étonné du sommet Afrique-France. Enfin, plus rien ne nous étonne en fait sur la volonté de garder une mainmise ou en tout cas de l'influence, si vous voulez. C'est presque de l'ordre de la survie finalement au niveau international de la France, puisque la France a cette position internationale de par ses colonies. Donc voilà. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que la France doit, coûte que coûte, défendre le français? C'est ça un petit peu la question, je ne sais pas, dans ces pays. Bah, de leur point de vue, du point de vue d'Emmanuel Macron, oui. Ils considèrent que, voilà. Mais par contre, sur la francophonie, la secrétaire générale de la francophonie, c'est intéressant. C'est pour montrer que c'est un outil. C'est Louise Mushikiwabo, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise. Le Rwanda est un pays avec lequel on a l'histoire que vous connaissez certainement tous, est un pays aussi qui s'est tourné vers les pays anglophones, vers la langue anglophone. Et donc, il y a eu pendant très longtemps un froid France-Rwanda, et pour cause. Et donc, l'un des moyens, finalement, quelque part, de faire double coup, c'est qu'Emmanuel Macron a poussé pour que Louise Mushikiwabo, qui était donc la ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame au Rwanda, soit nommée secrétaire générale de la francophonie. Petit rapprochement. Donc, ça permet un rapprochement avec le Rwanda et ça permet aussi un rapprochement par rapport à la langue qui était délaissée. Paul Kagame, aujourd'hui le président du Rwanda, ne parle pas français. Enfin, il sait parler français, mais la moindre interview, la moindre intervention, il l'a fait en anglais. Vous allez au Rwanda aujourd'hui, vous baladez au Rwanda, beaucoup ne parlent plus français ou mal. Ils parlent plutôt anglais. Donc voilà. C'est un outil d'influence comme un autre. Et choqué, c'est pas. On peut le regarder avec critique, c'est-à-dire vraiment avoir un regard critique et ne pas être dupe. Mais choqué, non. C'est tous les, je pense que tous les pays du monde essayent de garder leur influence partout, la langue, la culture et parfois l'ingérence et l'économie, bien sûr. Je ne sais pas, j'ai entendu économie au fond. là, sur l'économie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Enfin, vous me demandiez mon avis, en fait. Donc, je sais.
Voilà, je vous propose que nous en restions là. Merci beaucoup pour votre participation.
C'était Rencontre avec Michaël Poron autour de son livre Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française, paru aux éditions Luxe.
Radio Livre.